Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait manquer à la tradition et qui, par conséquent, vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, plus ou moins pertinente, les petites images qui bougent depuis un sacré bout de temps. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'un compositeur dont le nom vous sera sans doute inconnu, Leigh Harlin, mais qui a composé pour des films qui, eux, sans doute, vous seront connus et qui ont amusé, entre autres, un peu de teasing des générations de bambins passés, présents et sans doute à venir. Leigh Adrian Harlin, c'est son vrai nom, est né le 26 mars 1907 à Salt Lake City, dans l'Utah, quelque part dans le nord, centre des États-Unis. Une ville que peut-être vous connaissez, puisque ça se trouve être le siège des Mormons, plus proprement l'église des saints des derniers jours. Je le sais, j'y suis allé. En fait, les parents de Leigh Harlin, en l'espèce Carl et Mathilda, étaient eux originaires de Suède. Et c'est par le biais de leur recrutement dans l'église des saints des derniers jours qu'ils se décident à déménager carrément de Suède jusqu'aux États-Unis et donc de Suède, Stockholm, si je me souviens bien, jusqu'à Salt Lake City. Ma foi, ils y prospéreront puisque figurez-vous que Leigh est le plus jeune de 13 enfants. 13, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être un 14e, ça aurait évité de faire des malheurs, mais en tout cas, 13 enfants dans une famille, ma foi, je ne saurais l'imaginer, ça n'empêche pas le petit Leigh de faire ses études à l'université d'Utah, une université mormone, bien entendu, et surtout, d'étudier le piano auprès du Mormon Tabernacle, hein, le chœur des Mormons, en fait, qui est une institution aux États-Unis, puisque tous les dimanches, j'y suis allé, ils font un concert qui est retransmis dans tout le pays des États-Unis et qui existe depuis presque 200 ans maintenant. Alors évidemment, au départ, ce n'était pas télévisé, mais depuis 200 ans maintenant, tous les dimanches, dans l'église sacrée des Mormons. Autant dire que Leigh est à bonne école pour apprendre les rudiments de la musique, de la composition. Et par contre, pour les appliquer, eh bien, il déménage en 1928 jusqu'en Californie. Et se fait engager par rien moins que Walt Disney, la société Walt Disney, qui à l'époque, dans les années 30, n'est évidemment pas encore ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire une multinationale tentaculaire à laquelle il est très difficile d'échapper si vous souhaitez divertir vos enfants. J'ai déjà été très bavard, alors on va écouter un premier extrait d'une bande originale composée par Leigh Harlin. Je préfère ne pas vous donner le titre en annonce, je le désannoncerai comme l'on dit après, mais je suis sûr que vous allez le reconnaître dans 24 notes secondes. Thank you. Bon, je l'avoue, j'ai peut-être été un peu présomptueux en pensant qu'à écouter cet extrait de la bande originale d'un film sorti en 1937, vous en reconnaîtriez immédiatement le titre. Mais si par contre je vous susurre un hi, ah oh, on rentre du boulot ou un jour mon prince viendra, un jour il me dira, oui je sais qu'il me dira d'arrêter de chanter, mais dans ce cas vous l'aurez reconnu. Effectivement, la bande originale que nous venons d'écouter, c'était un extrait de la musique composée par Leigh Harling pour Blanche-Neige et les Sept Nains, un film sorti en 1937 et qui se trouve être tout à la fois le premier long-métrage signé par Walt Disney et tout simplement bien le premier long-métrage de dessin animé en Technicolor du monde. Il faut dire que Walt Disney, qui avait débuté juste à l'aube du parlant avec un personnage dont le nom en français ne vous sera peut-être inconnu, un certain Mickey, le gars avec des grandes oreilles, et une fiancée, entre guillemets, fiancée, bref, n'en disant pas plus, eh bien, il faut dire qu'en 7 ans, 8 ans d'existence, la société Disney avait traversé, même si ça paraît aujourd'hui un peu incroyable, beaucoup de tempêtes, et quand Walt Disney lui-même s'engagea dans la réalisation de ce long métrage, eh bien, beaucoup lui prédire un insuccès commercial total. Il faut dire que le film coûta la somme, à l'époque, fabuleuse de 2 millions de dollars, qu'il fallut presque 3 ans pour le réaliser, avec près de 750 artistes sous la direction de Walt Disney lui-même. Et après, j'arrête les chiffres, mais quand même, celui-là me paraît significatif. 1 million de dessins pour un film de 83 minutes. 1 million de dessins. Seulement le quart de ces dessins ont finalement été utilisés dans le film final, mais ça vous donne quand même une idée du gigantisme de l'entreprise qui consistait pour Walt Disney et ses réalisateurs à adapter ce qui au départ était un conte des frères Grimm, évidemment aménagé à la sauce Disney. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire de Blanche-Neige, de sa belle-mère la reine qui se regarde dans le miroir, de la pomme empoisonnée, du cercueil de verre, ben voilà, comme ça c'est fait, et des sept nains. Allez, on y va pour les sept nains, prof, simplet, grincheux, joyeux, dormeur, timidé. Et Hatchoum, évidemment, Hatchoum. En tout cas, en 1937, eh bien, Blanche-Neige et les Sept Nains fut un pari absolument réussi par Walt Disney, le premier long-métrage d'animation au monde et un succès encore persistant. Je ne sais pas si on a fait un remake, tiens, ce serait rigolo, c'est un remake en vrai de Blanche-Neige et les Sept Nains avec, comment il s'appelle le gars de Game of Thrones dans le rôle de Grincheux, par exemple, je dis ça au hasard. Et bon, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de subir ça, mais par contre, on peut se régaler, il faut bien le dire, de la beauté de ces images à la gouache, une par une, à la main, 24 par seconde, qui font tout le charme des dessins animés de l'ère pré-numérique, même si le numérique a lui aussi ses avantages. Et donc, Leigh Harling était aux commandes, non pas des chansons que j'ai évoquées, comme « Hey, oh » ou « Un jour mon prince viendra », il faut bien le reconnaître, c'est un nommé Churchill, non pas Winston, mais Frank Churchill qui a composé la musique de ces chansons, mais Leigh Harling était aux commandes de la musique, et bien évidemment, quand Walt Disney enchaînera sur un autre long métrage, et bien à nouveau, ce sera Leigh Harling qui se trouvera aux commandes de la musique. On va en écouter un extrait, alors là par contre, je ne vais pas vous faire à nouveau la devinette que vous risqueriez de perdre. On va écouter un extrait de la bande originale de Pinocchio, un film sorti en 1940, mais dans 24 notes secondes.
Oh! like a boat out of the blue. Fate steps in and sees you through. One reach upon a star, your dreams come
Cette fois, la chanson, elle est bien signée de Leg Harlin, When You Wish Upon a Star. Vous l'avez sans doute reconnu, un extrait de la bande originale de Pinocchio, un film des studios Disney sorti en 1940, le second long métrage des studios Disney qui rencontra à nouveau un très très grand succès puisque la musique elle-même obtint carrément les 3 Oscars musicaux de l'année 1940. Et donc, un pour Leg Harlin et cette chanson qui depuis 1985 est le logo musical officiel de Walt Disney. Quand vous voyez un film Disney, au départ il y a une vue du château de Blanche-Neige, je crois, ou je ne sais plus, et il y a une musique qui est le thème que vous venez d'entendre, I Wish Upon a Star, un film qui est adapté, très curieusement en tout cas à mon goût, d'un roman feuilleton italien publié par un auteur nommé Carlo Lorenzini, mais plus connu sous le pseudonyme de Collodi. Alors là encore, je n'ai pas besoin de vous rappeler, mais je le fais quand même, que c'est l'histoire de Geppetto, un artisan qui crée un garçonnet en bois appelé Pinocchio. Vous savez, le gars qui, comme les hommes politiques, quand il ment, ça se voit sur sa figure. En 1940, eh bien, là encore, ce fut un très très grand succès. Et là encore, on pourrait aligner les chiffres pour donner l'importance, je dirais, d'une production comme celle-là. On a tendance souvent à imaginer que dans la mesure où il n'y a pas d'acteurs, dans la mesure où il n'y a pas de décor proprement dit, un film d'animation, ça occupe moins de personnes qu'un film entre guillemets normal, en tout cas qu'un film en prise de vue réelle. En fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe, puisque ici, sur Pinocchio, il y eut non pas 750, comme tout à l'heure avec Blanche-Neige et les 700, mais près de 1200 personnes qui travaillèrent, 450 000 dessins originaux, etc., et 2 ans de fabrication. Il faut dire qu'entre-temps, Walt Disney, et maintenant il est réputé pour ça, avait contribué à industrialiser en fait la chaîne de production un peu artisanale du dessin animé. Et on se souvient de Pinocchio, les spécialistes en tout cas, puisqu'il y avait une caméra multiplane, il faut revoir le film pour s'en rendre compte, qui permettait de faire des sortes de focus en fait sur certaines images animées. L'effet était tout à fait saisissant, comme si là encore on était dans un film en prise de vue réelle. Il faut bien le reconnaître, on peut penser ce qu'on veut de certains films Disney d'aujourd'hui, même si certains sont plutôt réussis. Mais en tout cas, dans les années 40, si on veut passer sur la mièvrerie certaine des histoires, eh bien d'un point de vue technique, ces films-là étaient et restent de pure merveille. Il n'empêche qu'en 1941, eh bien, Leg Harlin choisit de quitter les studios Walt Disney en pleine gloire. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et que du coup, il faut le reconnaître aussi, eh bien, ça lui permet d'élargir sa palette. Puisque du coup, il va composer pour des films en prise de vue réelle qui évidemment auront une ambition je dirais cinématographique plus élevée que celle des films d'animation, en tout cas les films d'animation pour enfants, soit dit sans déchoir. Et ainsi, on le verra notamment notamment au générique en 1952 du Monkey Business de Howard Hawks, plus connu sous le titre « Chérie, je me sens rajeunir », dans lequel on retrouvait Cary Grant et surtout Marilyn Monroe dans l'un de ses premiers rôles. On le vit aussi en 1953 composer la musique de « Pick up on South Street », un film de Samuel Fuller qui en français devait s'appeler « Le port de la drogue », si je me souviens bien. Et puis en 1954, on le vit composer la musique d'un western, de ce qu'on appelle maintenant, une sorte de néo-western, c'est-à-dire un western qui se proposait de revisiter de façon un peu plus critique la façon dont, pour le faire simple, les pionniers américains, et notamment nos amis suédois évoqués plus haut, avaient largement massacré les populations indiennes pour s'installer en leur lieu et place, en signant avec elles des traités qu'elles s'empressaient ensuite de dénoncer. Bref, on était dans les années 50 et il y avait quand même un retour à une certaine véracité de la conquête de l'Ouest qui, dans les années 30-40, avait eu tendance à être, comment dire, un peu enjolivée. Ainsi donc, en 1954, on vit La Lance brisée, un film d'Edward Mitrick, pardonnez-moi, mais D-M-Y-T-R-Y-K, ça le fait au Scrabble. Non, on n'a pas droit au nom propre au Scrabble. Avec dans les rôles principaux, Spencer Tracy, Robert Wagner, Richard Widmark et Gene Peters. Eh bien, j'ai été une fois de plus très bavard. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, La Lance brisée, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Ça sent le générique de fin, je vous l'accorde, un extrait de la bande originale de La Lance brisée, un film d'Edouard Mitrick tourné en 1954. Une histoire donc de néo-western où on voyait notamment Robert Wagner incarner un métis. Son papa était blanc et sa maman était indienne dans les années 50. C'était vraiment très audacieux, d'autant plus que le film laissait une large part à la population indienne dans des rôles autres que you, en poursuivant la cavalerie. Voilà, donc c'était un hommage à Leigh Harlin. Pardonnez-moi, qui va bientôt se terminer et on va d'une certaine manière boucler la boucle, puisque Leigh Harlin est décédé en 1969 à l'âge prématuré, c'est peu de le dire, de 62 ans, d'un cancer, comme souvent, quelque part en Californie. Et il avait arrêté sa carrière juste un peu plus tôt. Et en 1962, on l'avait vu au générique du Monde merveilleux des frères Grimm, les fameux frères Grimm de Blanche-Neige et Les Sept Nains, un film de Henri Lévin et Georges Pal qui mélangeait dessin animé et prise de vue réelle, quand je vous disais que c'était un retour aux sources, et qui était donc une évocation très, très fantaisiste de la vie des frères Wilhelm et Jacob Grimm, incarnés par Laurent Sarvet et Karl-Heinz Böhm, et puis une évocation aussi de quelques-uns de leurs contes. Voilà, on va se quitter sur ça. Un extrait de cette bande originale signée Leigh Harlin dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.